Merci d'écouter RFI, 23h en temps universel, il est minuit ici à Paris. Et le journal, c'est avec vous, Mathis Limano, bonsoir.
Et bonsoir Arthur, Arthur Ponchelet pour l'actualité africaine. Dans le reste du monde, Donald Trump prévoit une big soirée alors qu'il doit s'exprimer devant le Congrès pour la première fois de son mandat. L'occasion de tirer un premier bilan depuis son retour au pouvoir, bilan aux États-Unis et à l'étranger. Entre les expulsions de migrants, la purge dans l'administration, le dossier ukrainien et la guerre commerciale, c'est un événement et il est très attendu. Et justement, après le gel de l'aide américaine à Kiev, l'Union européenne tente de prendre le relais. La Commission met 800 milliards d'euros sur la table. Objectif, réarmer l'Europe et vite aider l'Ukraine. Réunie en Égypte, la Ligue arabe adopte un plan pour la bande de Gaza, nettoyer et reconstruire en 5 ans. C'est le plan proposé par le Caire et salué par les Nations Unies. C'est donc un moment très attendu cette nuit aux États-Unis. Donald Trump va prononcer son premier discours devant le Congrès américain, Sénat et Chambre des représentants réunis. Un discours qui devrait être très suivi. En effet, Guillaume Nodin, Donald Trump sait créer l'événement.
Depuis hier, sur les réseaux sociaux, Donald Trump annonce que la soirée va être big, c'est-à-dire importante ou énorme. Selon les informations obtenues par la chaîne d'information conservatrice Fox News, il sera question dans le discours de renouveau du rêve américain. Il devrait parler de ce qu'il a fait depuis le début du deuxième mandat dans le pays et à l'étranger, de l'économie et de la frontière, et de ses plans pour la paix dans le monde. Il sera forcément question de l'Ukraine, et on verra ce que Donald Trump dira du soutien européen au pays et des tentatives de Volodymyr Zelensky de recoller les morceaux après l'invraisemblable spectacle de vendredi dernier dans le bureau ovale. On verra aussi qui seront les invités surprises. Il y a quelques années, Donald Trump avait réuni un soldat de retour d'Afghanistan avec sa famille qui ne s'y attendait pas. C'était cette année-là que l'ancienne présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, avait ostensiblement déchiré sa copie du discours de Donald Trump. Depuis le 20 janvier, les démocrates ont du mal à réagir. Leur chef à la Chambre et au Sénat les encourage à venir accompagner d'une personne qui souffre des premières décisions de Donald Trump, comme des fonctionnaires abruptement remerciés. D'autres ont déjà annoncé leur intention de boycotter le discours. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et Donald Trump en profitera aussi sûrement pour répondre à son homologue canadien Justin Trudeau, qui l'accuse de s'attaquer à l'économie du Canada pour l'affaiblir et enfin l'annexer. Accusation alors que la guerre commerciale entre les deux pays prend une ampleur inédite. Ce mardi, les droits de douane sur les produits canadiens sont entrés en vigueur, déclenchant une réaction en miroir. Ottawa a décrété des taxes de 25% sur les produits américains. Mais alors que Donald Trump menace encore de surenchérir, le ministre américain du commerce annonce qu'un compromis pourrait être trouvé, et ce dans les prochains jours, avec le Canada et le Mexique. Mexico également visé par la guerre commerciale menée par Washington. Et après le gel de l'aide américaine à l'Ukraine, l'Union européenne tente de prendre le relais. La Commission européenne a annoncé ce mardi un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe et soutenir Kiev immédiatement. Pour l'heure, les forces ukrainiennes ont encore de quoi se battre et se défendre. Mais pour combien de temps? Réponse avec Pierre Servant, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire.
Les Ukrainiens ont encore, je dirais, pour 6 mois de dotation militaire qui leur permettent de faire face aux différentes offensives russes. Donc il faut, dans ce laps de temps, que les Européens achètent assez massivement hors d'Europe, parce qu'on n'a pas suffisamment de munitions ou de missiles ou de drones en Europe, donc il faut acheter ailleurs. Et puis il faut s'inscrire dans la durée, et la durée, c'est la durée de ce que j'appelle la trahison de Donald Trump, hein, qui véritablement lâche l'Ukraine pour essayer de faire pression sur elle. Et donc il faut que les Européens s'inscrivent dans un temps moyen-court de régénération encore plus forte de leur propre armement. Donc en fait, il faudra diversifier les armements sans pouvoir exactement compenser la fin de l'aide américaine. Si cette fin d'aide américaine est confirmée, pour l'instant, c'est une suspension.
Pierre Servant, auteur de Le Monde de demain, 12 repères pour comprendre les conséquences de la guerre en Ukraine. Il était l'invité de RFI à la mi-journée au micro d'Anne Kantner. De son côté, Berlin prévoit d'investir plusieurs centaines de milliards d'euros dans sa défense et son économie et débloquer 3 milliards d'aides militaires pour l'Ukraine, d'après le futur chancelier l'allié allemand Friedrich Merz. Lui sera à Paris ce mercredi. Le président hongrois Viktor Orban vient s'entretenir avec Emmanuel Macron à la veille d'un sommet européen consacré à l'Ukraine. Viktor Orban, à la fois proche de Vladimir Poutine et Donald Trump, plaide pour un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et l'ouverture des négociations avec la Russie, menaçant de bloquer le sommet européen. Les Nations Unies soutiennent fermement le plan arabe pour reconstruire Gaza, plan présenté ce mardi par l'Égypte et adopté par les dirigeants arabes, réunis en sommet extraordinaire au Caire, présenté comme une alternative au plan d'expulsion des Gazaouis de Donald Trump. Explication signée Julien Chavanne.
Pour que les Palestiniens restent sur leur terre. Dans un plan de 112 pages, Abdel Fattah al-Sissi promet la reconstruction de la bande de Gaza d'ici à 2030. Et pour gouverner ce territoire dirigé par le Hamas jusqu'à la guerre avec Israël, le président égyptien propose une sorte de comité des sages.
L'Égypte a travaillé en coordination avec ses frères palestiniens pour former un comité administratif composé de professionnels et de technocrates palestiniens indépendants qui sera chargé de gérer la bande de Gaza grâce à l'expertise de ses membres. Ce comité sera responsable du processus de secours et de la gestion des affaires de la bande pendant une période intérimaire en guise d'introduction au retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza.
Ce comité se remplace pour une durée de 6 mois avant le retour à Gaza de l'autorité palestinienne. Le projet est ambitieux, politiquement d'abord, car rien ne se fera sans le feu vert d'Israël qui contrôle de facto le territoire palestinien. Et puis économiquement, le défi est énorme. Abdel Fattah al-Sissi avance le chiffre de 53 milliards de dollars pour nettoyer et reconstruire la bande de Gaza.
Une proposition saluée par le Hamas, alors que le président palestinien Mahmoud Abbas a lui assuré que l'autorité palestinienne reprendra ses responsabilités à Gaza, comme le prévoit le plan égyptien. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne dit avoir tué 3 Palestiniens, dont un chef local du Hamas à Jenin. Une déclaration alors qu'Israël a annoncé étendre son offensive à de nouveaux quartiers de la ville du nord de la Cisjordanie. L'opération de l'armée israélienne dans le territoire palestinien, baptisée Mur de Fer, se poursuit depuis maintenant plus d'un mois. Elle avait été lancée quelques jours après l'entrée en vigueur de la trêve dans la bande de Gaza. Session chaotique au Parlement serbe ce mardi. Un épais nuage de fumée dans l'enceinte même du bâtiment, déclenché par les fumigènes de députés de l'opposition. Une action en soutien aux manifestations anticorruption qui secouent la Serbie depuis plusieurs mois. Un mouvement déclenché par l'effondrement en novembre dernier d'un auvent de la gare de Novi Sad dans le nord de la Serbie. Une tragédie qui avait fait 15 morts. RFI minuit et 8 minutes à Paris. Les eaux très largement polluées. En Europe, la faute au trafic maritime, c'est ce que dit un rapport de la Cour des comptes européenne. Malgré un solide arsenal législatif, les poursuites judiciaires contre les pollueurs sont encore trop rares, au point que les objectifs que l'Union européenne s'est fixés pour régler le problème devraient largement être manqués, Simon Rosé.
Objectif zéro pollution maritime en 2030, objectif ambitieux, mais à la mesure de l'importance du sujet. Un écosystème marin en bonne santé est essentiel pour le maintien de la biodiversité, pour l'absorption du dioxyde de carbone émis par l'homme, essentiel également pour les activités économiques, au premier rang desquelles la pêche. L'Union européenne s'est ainsi dotée de lois parfois plus strictes que les règles internationales, un bon point selon les rapporteurs de la Cour des comptes, qui déplorent cependant leur trop faible application et une maigre utilisation des outils mis à la disposition des États membres. Le réseau CleanSeaNet permet par exemple de repérer rapidement les rejets d'hydrocarbures par les navires grâce aux satellites, près de 8000 signalements en un an transmis aux pays concernés, seule la moitié a été prise en compte et encore bien trop tardivement pour agir. De la même manière, quand ils sont attrapés, les auteurs de rejets illégaux sont peu poursuivis en justice et les sanctions ne sont pas dissuasives. Le manque de suivi est tel que l'UE ne peut pas estimer l'ampleur de la pollution. La quantité réelle des rejets illégaux est aujourd'hui inconnue, de quoi, concluent les auteurs, rendre hors de portée l'objectif zéro pollution en 2030.
Simon Rosé, le parquet fédéral suisse confirme en appel les peines requises contre Sepp Blatter et Michel Platini. 20 mois de prison avec sursis contre l'ex-ballon d'or français et l'ancien chef de la FIFA. Les faits remontent à 2011, près de 2 millions d'euros versés à Michel Platini pour des prestations de conseil dans un accord considéré par la justice comme déloyal. Et puis sur les terrains, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Arsenal quasi qualifié pour la suite après son carton 7-1 contre le PSV. Les Lillois amènent un bon nul, un partout de Dortmund, tandis que le Real et l'Atlético finissent sur le score de 2-1 pour le Real Madrid.